bienvenue sur les ondes de Basta FM 99.4, l'émission La Prophétie. Donc en ensemble, je suis là jusqu'à 22h. Cette émission qui vous est proposée tous les vendredis, à partir de 20h jusqu'à 22h par l'association Rencontre et Dialogue, que vous pouvez joindre à la maison des associations au boulevard de la Liberté à Roubaix. Ou directement ici, sur Basta FM, émission La Prophétie, boîte postale 222 59 054, Roubaix, CEDEX 01. Numéro du standard 0320 73 59 00, que beaucoup connaissent bien sûr, et bien entendu n'hésitez pas à téléphoner en direct pour vous poser un certain nombre de questions sur le thème de ce soir, qui va aller un petit peu dans le prolongement de la grosse polémique, hein, si je puis dire, sur l'affaire des caricatures. La semaine dernière avec Sir Ahmed, on avait entamé la discussion vis-à-vis de cette polémique, et on va continuer un petit peu dans le même sens, et notamment Sir Hassan, salam alaikum, bienvenue à toi.
Alaikum salam.
Continuer justement pour montrer effectivement à l'ensemble des éditeurs et des éditrices, musulmans et non musulmans, quelle était la grandeur de notre prophète bien-aimé, qui dépasse bien au-delà de toutes les polémiques qu'on peut avoir à son sujet. Juste avant de commencer, ça me quand même d'accord. Avant de commencer sur le thème de ce soir, juste rappeler, la semaine dernière, on a jeûné Ashura, donc c'était le 10e du mois de Muharram, ça, premier mois de l'année musulmane. Donc généralement, on prend cette date-là comme étant une référence pour payer zakat el-mal. Donc, Hassan, si tu peux nous faire un petit rappel justement sur ce troisième pilier, hein, qui est juste après la prière au quotidien, donc il reste un grand pilier, et quelles sont un petit peu les modalités justement pour accomplir ce grand pilier qu'est les zakat.
Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Salam alaikum wa rahmatullah. Effectivement, il est de tradition chez beaucoup de musulmans, surtout les musulmans du Maghreb, de s'acquitter d'un devoir essentiel en islam, qui est la zakat, donc une aumône purificatrice, car le terme zakat en arabe veut dire purifier, donc purifier son cœur, son âme, en faisant un effort pour donner ce que l'on aime le plus, l'argent, nos biens, à qui de droit, donc un effort en combattant l'avarice, l'amour des biens matériels, et qui a une vocation à apporter un rayon de bonheur et alléger les souffrances de ceux qui sont dans le besoin. Donc, destiné aux nécessiteux. Zakat, l'aumône purificatrice communautaire pour ceux qui sont dans le besoin. C'est effectivement le troisième pilier de l'islam, après les cinq prières obligatoires et la shahada. Et les savants musulmans s'accordent, il y a unanimité, pour dire que celui qui renie, ce qui remet en question ce principe, n'est plus musulman. Ils s'accordent aussi pour dire que celui qui refuse de verser la zakat, consciemment, n'est plus musulman. Et malheureusement, beaucoup de musulmans aujourd'hui sont ignorants de l'importance de ce pilier de l'islam, et oublient, ne savent pas, ou donnent, mais pas comme il se doit, ce dû. Car « haqqun ma'lumun lis-sa'il wal-mahroum » Dieu dit dans le Coran. C'est le droit des nécessiteux et de ceux qui sont dans le besoin. Ça leur appartient. Cet argent n'est pas le tien. Tu dois retirer 2,5% de tes économies annuelles et les verser à qui de droit. Sinon, tu es étranger à cette communauté. Notre religion n'a pas qu'une dimension spirituelle, n'est pas uniquement destinée à gérer notre relation intime avec notre Créateur, mais elle a aussi une vocation, une dimension sociale, économique et humanitaire. Ainsi, celui qui accomplit ses cinq prières n'est pas un musulman s'il n'accomplit pas son devoir envers ceux qui font la prière et qui ne la font pas, en partageant, en donnant cette partie de ce qui lui a été donné par Dieu. C'est comme ça que l'islam voit la notion de la propriété, de la possession. Faites largesse de ce que l'on vous a donné. Moi, Dieu, je vous ai donné, donc vous donnez. Et ceux qui reçoivent, donnent, et ainsi de suite. Une solidarité, un altruisme. Vous ne devez pas vous arrêter sur vous-même. Vous devez donner aux autres. Et la tzedaka, nous n'avons pas le droit de la verser à nos descendants et à nos ascendants, car eux, ils sont de fait sous notre responsabilité matérielle. Si cette tzedaka, pas le droit d'être donnée à nos enfants, nos petits-enfants, nos parents, nos grands-parents. Cependant, elle peut être versée à un autre membre de la famille qui en a besoin. Il est strictement interdit de la donner à ceux qui ne sont pas dans le besoin. Car des gens ont tendance à quoi ? À verser cette tzedaka dans un cercle fermé. La cousine donne à sa cousine, la tante donne à sa nièce, et l'argent reste dans la tribu, reste dans la famille. Ça ne marche pas, on ne peut pas tricher avec Dieu. Vous donnez à celui qui en a le besoin, que ce soit un proche ou un lointain. Certes, les proches avant, les autres ils sont dans le besoin. Bien sûr, comme on a dit, pas les descendants ni les ascendants. Donc c'est une somme d'argent, 2,5% des économies. Et non pas de ce que vous avez gagné. C'est ce qui vous reste après un an, vous le donnez. Donc une fois par an, maintenant si vous voulez la répartir dans l'année, vous avez le droit.
On peut mensualiser, comme on dit.
Vous pouvez mensualiser, à la fin de l'année vous faites les comptes, si vous devez rajouter, vous rajoutez. Et si vous avez donné plus qu'il ne faut, soit vous passez l'éponge, soit vous le comptabilisez pour l'année suivante. En tout cas, on a le droit de la mensualiser. On a le droit de la verser là où on habite, mais on a le droit de la verser aussi à ceux qui sont dans le besoin et qui sont très lointains, à l'étranger. La distance ne doit pas nous freiner. Certes, les proches sont prioritaires, mais si dans notre entourage il n'y en a pas, à ce moment-là, on peut l'envoyer à l'étranger. Donc ça, c'est la zakat al-mal, un pilier, un fondement de l'islam pour tout le monde. Toute personne qui touche de l'argent. Parce que certains disent, oui, moi je suis logé chez mes parents, j'habite chez mes parents, mon père, il verse la zakat, parce que moi je dois la verser. Si tu gagnes de l'argent, bien sûr, tu dois verser la zakat. Mais pas si tu gagnes. Si on t'a fait don d'une somme, tu dois donner la zakat. Toute personne qui thésaurise, qui a de l'argent, qui l'ait gagné à la sueur de son front, qui l'ait trouvé, ou que cet argent lui ait été offert, il doit toujours donner 2,5% de ce qu'il possède. Et l'épouse, qui a ses revenus, doit verser la zakat. C'est un devoir. Comme ça, alhamdoulilah, il y a une justice, tout le monde verse. Maintenant, on doit aussi verser de la zakat sur, non pas seulement la monnaie sonore et trébuchante, mais sur tout autre bien. Ainsi, celui qui commerce doit donner une zakat. Bon, là, il faut interpeller les spécialistes, les spécialistes de la zakat, pour vous dire, après lui avoir fait un topo sur votre activité commerciale, pour qu'ils vous disent comment l'agriculteur, l'éleveur, toute personne qui fait un commerce, qui gagne de l'argent, doit verser la zakat de manière obligatoire une fois par an. Je crois que j'ai résumé. Il y a beaucoup de questions sans doute sur la zakat, donc si vous en avez, elles sont les bienvenues. En tout cas, sachez qu'il faut vite s'atteler et la verser.
Je ne vais pas me faire l'avocat du diable, loin de ça, mais
voyons.
La personne qui travaille effectivement, et qui thésaurise ou pas, donc qui met de côté ou pas, mais qui est imposable par l'État français, donc n'importe comment, il y a un compte qui est fait, il y a de l'argent qui est donné, a priori, c'est pour pour le fonctionnement du pays, et notamment
la distribution
aussi pour ceux qui ont moins. Donc, comment on peut comprendre cela en tant que musulman ?
La zakat, c'est une obligation pour le musulman. C'est une obligation à vocation spirituelle, avant tout, et c'est une obligation aussi à vocation sociale. Maintenant, celui qui vit dans un pays, il est soumis à la loi du pays, aux lois du pays. Et il doit s'acquitter de ses devoirs économiques, politiques, etc. il n'a pas le droit de ne pas verser la zaka sous prétexte qu'il donne des impôts, parce que ce sont deux approches différentes. Primo, nous nous sommes imposés en fonction de quoi ? En fonction des revenus, n'est-ce pas ? Secondo, on sait très bien que cet argent que récupère l'État, il est redistribué entre autres aux nécessiteux, d'accord ? Voilà, c'est les RMI, etc. Mais il est aussi utilisé pour d'autres dépenses, d'accord ? Alors que la zaka en islam, Dieu a déjà fixé les personnes à qui revient cet argent. Et nous, on sait que en islam, celui qui est endetté, qui n'a pas la capacité de payer ses dettes, il a le droit à la zaka. On sait aussi que la zaka peut être versée pour ceux qui la collectent. La zaka peut être aussi versée pour nous qui vivons en France, développement des structures existantes, que ce soit des centres islamiques, des écoles, des universités. Et si on se contente de dire j'ai payé mes impôts, toutes ces personnes qui ne recevront pas les impôts, ces institutions qui ne recevront pas les impôts, comment vont-elles fonctionner ? Donc la zaka, c'est une obligation qui incombe aux croyants en tant que musulmans, qui doit être redistribuée à des personnes qui sont définies par le Coran, dans la sourate Tawbah, innama sadaqatu lil fuqara wal masakin, etc. Pour des objectifs bien particuliers, des objectifs qui ne seront pas atteints, mais visés, qui ne sont pas visés par les impôts.
Voilà. Autre chose, non, mais dans le même sens, juste une précision, on peut être imposable, non imposable au titre des revenus.
Bien sûr, et puis payer
et imposable,
tout à fait.
Donc,
voilà. Au contraire aussi.
Oui.
Bien sûr. Très bien, ne pas être imposable au niveau de la zakat et être imposable au niveau des revenus.
Justement, pour préciser, il y a un montant minimum pour lequel, au-delà duquel on est imposable, donc c'est fixé
à 1100, 1200 euros. En deçà de cette somme, vous n'êtes pas imposable islamiquement parlant. Au-dessus de cette somme, 2,5%.
En pays musulman, c'est-à-dire avec une économie musulmane, le pays fonctionne simplement avec zakat al-mal, ou alors il peut en donner
d'autres impôts,
d'autres ressources.
Bien sûr.
D'accord.
Le zakat, c'est un impôt, mais il y a d'autres ressources.
D'accord. J'ai un certain nombre de questions qui ont été posées, notamment à l'instant une sœur qui a appelé, t'a dit on ne peut pas adresser la zakat ni à ses ascendants ni à ses descendants, mais est-ce qu'on peut le donner par exemple à son frère ? Voilà la question qui a été posée. Donc elle peut le donner à son frère.
Vous pouvez le donner à votre frère s'il est dans le besoin.
Bien entendu.
La condition, c'est toujours qu'il soit nécessite.
On a parlé donc la mensualisation, c'était pas un problème. Minimum imposable, donc on a fixé 1100, 1200 euros. Et dans le, entre guillemets, le listing des personnes qui de droit de cette zakat, bien sûr on a parlé des nécessiteux, mais à un moment, est-ce que dans le listing, il n'y a pas aussi ceux qui travaillent, comme on dit, fisabilillah, dans le sentier d'Allah ? Est-ce que c'est est-ce qu'ils sont considérés ? Et dans ce cas-là, est-ce qu'on peut, par exemple, comptabiliser une partie de la zakat pour des associations qui travaillent dans... Enfin, je ne vais pas faire la promotion de notre association, mais d'une manière générale, n'importe quelle association, je pense à GMF, où il y a des cotisations. Est-ce qu'on peut prendre une part de ces cotisations
une des directives coraniques. D'accord ? Dieu nous parle donc de ceux qui sont dans le besoin, les nécessiteux, ceux qui collectent la zaka, les gens qui viennent de se convertir ou qui sont prêts à se convertir, qui ont besoin d'une aide financière, les esclaves qu'il faut libérer, et Wafi Sabilillah. À un moment donné, le huitième catégorie qui doit recevoir la zaka, on est le fils Abélila, c'est-à-dire dans le sentier de Dieu. Donc si une association œuvre pour le bien de l'islam, on peut verser cette zaka. Que ce soit une association humanitaire, une association à but d'enseigner l'islam, de nouer des relations, de créer des liens avec les non-musulmans pour expliquer l'islam, etc. Le fils Abelila est très large. Mmh. Mmh.
Justement, on parle d'associations par lesquelles on peut donner une aide à l'autre bout du monde. Je veux juste rappeler Secours Islamique, hein, qui est un partenaire aussi de notre émission. Donc on va rappeler Secours Islamique. D'ailleurs, c'est par Secours Islamique que j'ai eu ce rappel sur les Zakat El-Mal. Secours Islamique, 58 boulevard Ormano, 93-285 Saint-Denis, CEDEX. 58 boulevard Ormano, 93-285 Saint-Denis, CEDEX. Donc Secours Islamique. Une association qu'on connaît, hein, pour laquelle on peut envoyer Zakat El-Mal. Donc juste pour clore sur le thème, on va donner un cas concret. Si quelqu'un, donc sur un an, au bout d'un an, il lui revient 2000 euros, par exemple, pour se fixer des idées, 2000 euros dans son compte, qui a été pendant un an, au bout d'un an, 2,5% de ces 2000 euros, puisqu'il est au-dessus du minimum imposable, donc il est imposable de la zakat, et on fait 2,5% de ces 2000 euros, donc 50 euros. 50 euros de zakat, voilà. Donc, avis aux questions, s'il y a eu quelques malentendus ou des choses incomprises, n'hésitez pas à 03 9 73 59 00. Donc voilà pour ce rappel, moi, que l'on fait ça. On va donc transiter, on va faire une transition, pardon, sur le thème qui était à l'origine pour ce soir. On va se rappeler sur les grandeurs de nos prophètes bien-aimés. Sans plus tarder, vas-y, je t'en prie.
Il y a toujours eu des détracteurs du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de son vivant et de sa mort. Et de tous les prophètes. Les prophètes ont tous connu des détracteurs, des gens qui les ont dénigrés, qui les ont combattus. Et parfois, c'est allé très loin, puisque les gens ont abusé, ils ont été violents. Et beaucoup de prophètes ont été assassinés. Beaucoup de prophètes ont été combattus jusque la mort. Donc, ça ne doit pas nous étonner. Celui qui lit le Coran, qui connaît la biographie des prophètes cités dans le Coran, comprend et n'est pas choqué par ce qui se dit aujourd'hui à propos du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Puis entre nous, insulter le dernier des prophètes, c'est insulter tous les prophètes, parce qu'ils se ressemblent tous, ils ont tous dit la même chose, ils ont agi de la même façon. Donc c'est s'en prendre en fait à la prophétie et aux prophètes de manière générale. Et nous, musulmans, il nous est demandé de vouer du respect à tous les prophètes sans distinction. Et surtout, ne pas en dénigrer un. Abou Bakr Sadiq, radhiyallahu anhu, discutait un jour avec un de ses concitoyens non musulmans, un juif. Et ce juif de Médine a juré en disant « Je jure par celui qui a choisi Moïse le meilleur des êtres humains. » Et Abou Bakr n'a pas pu s'empêcher de le gifler en disant « Tu oses jurer de cette manière alors que le meilleur des êtres humains, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. » Choqué par la réaction d'Abou Bakr, cet individu court, fuit Abou Bakr vers qui ? Vers le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Regardez comment les gens allaient le voir pour faire justice, allaient le voir pour trouver chez lui la miséricorde. Abou Bakr le gifle parce que Abou Bakr a considéré que ce juif a dénigré le prophète, il l'a dévalorisé. Et qu'est-ce que fait ce juif ? Il va voir le prophète pour demander de l'aide au prophète, du secours au prophète. Pour montrer à quel point il était vénéré et respecté par, non pas uniquement ses adeptes, mais aussi par ceux qui ne voulaient pas le reconnaître en tant que prophète. Il le reconnaissait en tant qu'être humain, en tant qu'être humain qui a des valeurs. Et il lui dit, ya Muhammad, voilà ce que j'ai dit, voilà ce que m'a fait Abou Bakr. Et à ce moment-là, Abou Bakr arrive essoufflé. Il lui dit, ya Abou Bakr, tu agis de cette manière ? Il m'a dit oui. Il m'a dit, alors sache que ce n'est pas bien ce que tu as fait. Vous ne devez pas me préférer à mes frères les prophètes, car parce que ça sera le jour la fin du monde, parce que l'ange va souffler dans la trompe que tout le monde va mourir, je serai le premier à me réveiller, et quand je serai éveillé, je trouverai Moïse qui est déjà accroché au trône de Dieu. Donc ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il fait? Il condamne Abou Bakr, il lui dit c'est pas bien ce que tu as fait, et deuxièmement, il met en valeur Moïse, en disant que Moïse, lui, il ne va pas, à cause du soufflement de la trompe, du bruit de la trompe, il ne va pas tomber évanoui. Il la met en valeur, il a quelque chose de plus. Même moi, je vais tomber évanoui, mais lui, non. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'acceptait pas qu'on dévalorise. D'ailleurs, il a dit, il n'est pas permis à quelqu'un qui croit en Dieu et au jour dernier de dire qu'il est meilleur que Jonas, le fils de Matthieu. C'est-à-dire, même moi et vous, musulmans, vous n'avez pas le droit de dire que vous êtes meilleur que Younous. Pourquoi? Parce que Younous, à un moment donné, il a quitté son peuple, il l'a abandonné. Il a vu que son peuple ne voulait pas répondre à l'appel, à l'invitation. Il les a quittés. Donc, il pourrait penser du mal de lui en disant
il n'est pas allé jusqu'au bout,
il n'est pas allé jusqu'au bout, il a démissionné, etc., etc. Et là, pour barrer la route, ceux qui pourraient le calomnier, ceux qui pourraient le dénigrer, il dit, il ne s'y est pas. Croyant en Dieu au jour dernier, de dire, je suis meilleur que Younous, Jonas, fils de Matthieu. Même moi, je ne le dis pas. Donc, il vaut du respect à tous les prophètes, et il nous a enseigné de respecter tous les prophètes, et à ne pas les dénigrer, et celui qui touche à un prophète, c'est comme s'il a touché à tous les prophètes. Là, nous ferions bayna ahadin min rusul. Il ne faut qu'une distinction entre les prophètes, dans le sens où, pour nous, sont tous des élus. On leur doit du respect. C'est pour cela, les savants musulmans contemporains qui sont penchés sur les exégèses coraniques d'antan, vraiment, ont été choqués. Choqués par quoi? Par des histoires dans les tafassis, les exégèses coraniques de prophètes qui ne correspondent pas à l'importance que l'on donne aux prophètes. Et ils ont condamné ces savants musulmans qui ont truffé leurs commentaires du Coran d'anecdotes qu'ils ont tirées des anciennes écritures. Des anecdotes qui, peut-être, chez ces peuples-là respectifs, ne choquent pas, mais nous, musulmans, nous choquent. Par exemple, quand on lit dans l'Ancien Testament que Noé a bu jusqu'à s'enivrer, nous musulmans, on ne peut pas dire ça n'importe quel prophète qui boit jusqu'à perdre la raison. Hacha, comme on dit nous. Ce n'est pas possible, c'est pas vrai. Si ça ne choque pas les autres, c'est leur droit. Mais nous, de but blanc, on refuse, on rejette cette anecdote en disant non. Les prophètes ne perdent pas la raison. Quand on lit par exemple que Noé a pu, il s'est enivré, il a perdu raison, il s'est dénudé. Bref, on veut tellement de respect aux prophètes, on les vénère tellement qu'on n'accepte pas que quelqu'un se moque d'eux ou quelqu'un les dénigre, quelqu'un les dévalorise. Et il n'est pas permis à musulmans de citer ces anecdotes. Pourquoi? Parce que elles vont en contradiction avec le respect qu'on doit leur vouer. Donc, il serait bien, inchallah, aujourd'hui, de rappeler la grandeur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa grandeur d'âme. Mais avant de parler de la grandeur du prophète, il faudrait peut-être répondre aux critiques qui sont lancées par ses détracteurs. Généralement, les critiques tournent autour de deux points essentiels. La première, c'est le prophète et les femmes, le sexe féminin, etc. Et deuxièmement, le prophète et la violence et la guerre. Et c'est ce qui revient toujours. Quand on veut dénigrer le prophète, c'est ce qu'on cite. Généralement, des caricatures, à un moment donné, pareil, personnellement, je n'ai pas cherché à les regarder ni à les voir parce que c'est de la pollution intellectuelle pour moi. Si ça atteint le niveau intellectuel, et le représentant avec un turban qui est la forme d'une bombe.
Voilà. De dire,
il est violent, il a enseigné que la violence et sa religion est violence. Donc comment répondre à ces gens-là? Est-ce qu'on doit réagir avec des sentiments et dire que non, le prophète c'est le prophète d'amour et de miséricorde, le prophète de la paix, il est contre la guerre, et entrer en contradiction avec des faits historiques? Ou faut-il être emporté par la colère et dire oui, et alors hein, et c'est ce que vous méritez, c'est justement d'être combattu, parce que la preuve, regardez ce que vous faites. Non, il faut garder la raison et rester honnête intellectuellement et ne pas pencher du côté de la justice. Le prophète est avant tout le prophète de la miséricorde. Alors, je vous dis ça en m'appuyant sur les textes. Je ne dis pas ça parce que je suis musulman et que mon devoir de croyant m'impose de le vénérer, de le respecter. Je dis ça parce que j'ai un esprit rationnel, scientifique, et je cite et je me base sur des textes. Et je voudrais bien que les détracteurs du prophète se basent eux aussi sur les textes. Sinon, c'est trop facile de dire ce que l'on vit, ce que l'on en vit de quelqu'un. C'est parce que je déteste quelqu'un qui va commencer à dire n'importe quoi. Donc, on a des sources et on est obligé de nous baser sur ces sources. Mais il ne faut pas être borné et voir qu'une partie des sources et oublier les autres. Moi, je vais citer les sources qui mettent en valeur le côté miséricordieux, clément du prophète, selon moi. Je vais mettre aussi en côté sa personne, son personnage qui a assumé ses devoirs en tant que chef d'État, donc c'était un guerrier aussi. Donc il est le prophète de la miséricorde, c'est cité dans le Coran. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Le texte est clair. Nous t'avons suscité, envoyé comme miséricorde pour toutes les créatures, créatures animées et non animées. Alamin signifie tout ce que Dieu a créé de vivant ou de non vivant. Donc il est une miséricorde. Dieu n'a pas dit nous t'avons envoyé comme soldat pour combattre les créatures de Dieu. Il a bien dit Rahmatan lil alamin. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, son premier devoir, c'est de transmettre la parole de Dieu, de la mettre en application. Donc il doit être une miséricorde. Il n'a pas le choix, car Dieu lui a dit « Tu es une miséricorde ». Donc, il fait des efforts au quotidien pour être une miséricorde. Sinon, il est en contradiction avec la parole de Dieu. Et sinon, ses détracteurs vont utiliser ce verset pour lui dire « Tu n'es pas quelqu'un de sincère, puisque dans ton Coran, il est dit que tu es une miséricorde, mais tu n'es pas une miséricorde, tu es un monstre. » Ils auraient utilisé cet argument de son vivant pour prouver A plus B qu'il n'est pas sincère, qu'il n'est pas véridique, puisque le Coran dit de lui qu'il est une miséricorde. Donc, il n'a pas le choix, il doit être une miséricorde. Il ne peut être qu'une miséricorde. Et pardon, il ne peut être que la miséricorde, parce que il est qualifié de prophète de la miséricorde. Et d'ailleurs, est-ce que vous croyez que ceux qui l'ont combattu la veille et qui se sont convertis le lendemain, alors quand je dis la veille le lendemain, ça a pris 10 ans pour certains, 15 ans, 20 ans pour d'autres, hein, donc ce ne sont pas des gens qui sont convertis parce qu'une mouche les a piqués, ce ne sont pas des gens qui sont convertis pour des intérêts, ils l'ont combattu, ils ont risqué leur vie, ils ont dépensé leurs biens pendant 20 ans pour le combattre. Et à la fin, alors est-ce que vous croyez que ces anges sont, ils n'ont rien dans la tête? Voilà. La raison, l'esprit critique est né au 21e siècle. Hein, les gens avant, leur conscience intellectuelle était plus bas qu'aujourd'hui. Non, ce sont des gens comme vous et moi qui pensent, qui réfléchissent, qui analysent, qui ont du recul. Mieux, ils sont mieux placés pour nous, pour le critiquer, parce qu'ils vivaient avec lui. Ils le connaissaient, ils l'entendaient, ils l'écoutaient. Nous, aujourd'hui, on ne fait que nous baser sur ce qui nous a été rapporté de lui. Ce qui nous a été rapporté de lui, c'est même pas 10%, 20% de ce qu'il a dit, de ce qu'il a fait. Hein, ce que l'on sait, c'est l'essentiel, c'est suffisant pour que l'on soit musulman, mais c'est rien. 20 ans, de 23 ans.
Mm-hmm.
C'est 23 ans de missionnariat, 23 ans de prêche, 23 ans de modèle et d'exemple. On n'a pas tout sur le prophète, sur le Mohammed. Donc, il est le prophète de la miséricorde. Bil-mu'minina ra'oufun rahim. Et s'il est une miséricorde pour toutes les créatures, il est encore plus miséricordieux et plus doux envers les croyants. Comme Dieu exalté soit-il, on dit Bismillahirrahmanirrahim. Certains savants disent Ar-Rahman, ça veut dire le miséricordieux envers toutes ces créatures. Ar-Rahim, le très miséricordieux envers une partie de ces créatures qui ont répondu à son appel, à son invitation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est pour l'univers Rahma, une miséricorde. Et pour les croyants, il est Ra'oufun Rahim, hein, comme Dieu. Rahman pour tout le monde, Rahim pour les croyants. Le prophète, il est Rahma pour tout le monde, et il est Rahim, et Ra'ouf, et doux. Pour qui? Pour ces gens qui sont quand même différents des autres. Ils croient en lui, ils le reconnaissent. Lui-même, quelqu'un.
Je t'interromps, non pas que. Juste pour privilégier le direct, il semblerait qu'il y ait quelqu'un qui voudrait intervenir en direct sur mes ondes. Oui, allô?
Allô?
Oui?
Comme
ça là,
comme ça là. Je suis farfouche parce que je suis en train de discuter avec ma mère et
oui.
Je n'étais pas d'accord là-dessus. Puis écoute, tu m'as fait l'émission, là, il y a 5 minutes, au final, elle a fait avec la mail. Est-ce que c'est un compte bloqué, c'est l'économie d'un compte bloqué ou là, un compte qu'on utilise tous les jours pour. Un compte de nos Zakat Mal.
Zakat, vous devez la verser par rapport aux économies, c'est-à-dire après un an. Ce que vous avez sur tous vos comptes, en dessous de votre matelas, dans votre coffre-fort, admettons, d'accord, vous donnez 2,5% de tout ce que vous possédez.
D'accord, même le compte habituel, il n'a que le bémol, sur le bémol.
Et le compte habituel, il a fait 200 000 euros.
Je suis au chômage.
Une
question entre la Hassan et Ali. J'ai fait une bêtise et j'ai toute la journée à me faire affaire. J'ai acheté une pâte feuilletée d'Achia pour faire à ma mère des petits chaussons. La gourmandise parfois. Et une petite chouette à l'alcool derrière.
Oui.
Alors c'est pas très grave.
Vous les avez déjà mangés?
Non, mais. Je suis désolée.
Non, vous ne saviez pas.
Oui. Non, Smiley, j'avoue, je le savais.
Alors, faut pouvoir commencer.
Après, il y a eu l'émission ce matin, il y a quelques années, quand donc, une fois que c'est faible, ça s'évapore.
Ah, c'est trop facile, ça.
C'est facile, voilà. Non, mais.
C'est tout. C'est du passé, Inch'Allah. Inch'Allah, Mohamed Salaf.
Inch'Allah, je ne recommencerai plus. Merci
c'est
beaucoup.
C'est bon. Bon appétit.
Salam alaykoum. Merci pour votre peine. Donc, on va reprendre.
Oui. Qu'est-ce que je disais? Oui. Abu Huraira, radiallahu anhu, et son compagnon, son ami qui s'appelle Tufayl ibn Amru, se convertissent à l'islam. Et Tufayl interpelle le prophète en disant: ô prophète, ma tribu, les Daous, sont têtus, ont été, ne veulent pas se convertir. Demande à Dieu de les maudire. Hein? Donc Tufayl veut que son peuple soit puni parce qu'ils sont. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit en disant: Dieu ne m'a pas envoyé comme malédiction. Hein? Dieu ne m'a pas envoyé pour me redire. Dieu m'a envoyé pour enseigner et je suis une miséricorde pour l'univers. Donc, là, pas concret, hein? Qui demande la bénédiction contre son peuple? C'est pas le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est Tufayl qui était lui-même le représentant de son peuple, le chef de sa tribu. Il a essayé de les inviter à l'islam, ils ont refusé. Il en a marre. Qu'est-ce qu'il dit au prophète? Il mérite d'être maudit. Qu'est-ce que dit le prophète Aïssa? Il ne cherche pas à faire plaisir à ton frère. Ouais. Il lui enseigne ce que c'est que l'islam. Un, j'ai pas été envoyé comme la Ranam, quelqu'un qui maudit les gens, ou quelqu'un qui leur souhaite le malheur, quelqu'un qui leur veut du mal. Deux, sache que j'ai été envoyé comme Mu'alliman, pour enseigner, pédagogue. Wa rahmatan lil alamin, une miséricorde pour l'univers. Dans un autre hadith, il dit Innama bu'itsu rahmatan, j'ai été envoyé comme miséricorde. Muhdat, offerte. Il est un cadeau. Pour qui? Pour tout l'univers. Donc, ce sont ses propos. Ces propos ont été tenus quand? Dans des cas particuliers, concrets, dans des événements où on lui dit, voilà prophète, tu dois agir comme ça, et il a dit non. Mieux, cas de figure le plus flagrant, avec son fils adoptif Zayd, il fait 70 km à pied pour aller transmettre l'islam chez les Tarqif, la tribu de Taif, les Banu Sarqif. Il entre en contact avec les notables, il les invite et il refuse. Voilà, c'est leur droit de refuser. Qu'est-ce qu'il leur demande, sallallahu alayhi wa sallam? Il leur dit, tout ce que je vous demande, c'est de taire ce qui s'est dit. Si vous dites rien, hein, ça reste entre nous, l'affaire est classée, je vous ai invité, vous refusez mon invitation. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Dès que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est sorti de la réunion, ils ont interpellé tous les jeunes des Banu Sarqif et ils leur ont demandé de le lapider, hein, de le lyncher. Et ils l'ont lapidé, ils l'ont lynché. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dû se sauver, il était ensanglanté, il s'est réfugié dans un verger appartenait à Quraishit, et il a, celui qui travaille dans le verger l'a accueilli, il s'appelait Adas, un chrétien. Il lui a donné à boire, il lui a donné du raisin. Et sur la route, le prophète sallallahu alayhi wa sallam reçoit la visite de l'ange Gabriel qui lui dit, ya Muhammad, on a vu ce qui t'est arrivé. Dieu m'a envoyé avec l'ange des montagnes pour te dire, l'ange est à ta disposition. À ton signal, il est réduit poussière. Les Tarqif habitaient dans une ville entre deux montagnes. Il est réduit en poussière entre ces deux montagnes. Vas-y, la vengeance. Comment réagit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il dit non. Laissez-les. Si eux, ils s'entêtent, ils refusent, peut-être que leurs enfants croiront à Dieu. Alors, c'est pas une situation dans laquelle un être humain normalement constitué réagit en disant oui, il faut les. Ils ont été malhonnêtes. Il leur a demandé. Deux, ils ont été violents. Ils ont été mal polis. Normalement, quand on a un invité, on l'accueille, etc., etc. Non, il avait toutes les raisons pour se venger, pour les punir, et qu'il a opté pour quelle solution? La miséricorde.
C'est du cas concret. Effectivement, on va prendre une personne en direct. Oui, allô.
Allô, bonjour. Oui, bonsoir. Vous avez une question? Je suis mariée.
Oui.
En fait, dès qu'on a un problème entre le couple, là, on me dit à chaque fois il prononce le mot divorce. Et donc, pour savoir en fait si c'est officiel ou pas. Là.
Alors, qu'est-ce que ça veut dire il prononce?
Comment?
Ça veut dire quoi il prononce le terme?
Ça veut dire qu'en fait, il dit, à chaque fois quand il est énervé, il me dit ouais, t'es divorcé.
D'accord.
Et depuis qu'on est marié, il me l'a dit plusieurs fois.
Et vous êtes toujours ensemble?
Ouais.
Donc, c'est bien la preuve qu'il n'a jamais pensé ce qu'il dit.
Quand il est vraiment énervé, il me dit que sur le coup, quand il est énervé, il le pense.
C'est ça.
Mais après, quand il est calmé.
Il le dit sous la colère.
Ouais.
Donc ça ne marche pas. La talaqa fi irlaq. Le prophète a dit point de divorce quand on est en colère. C'est-à-dire celui qui est en colère et qui crie sur les toits à son épouse, t'es plus ma femme, je divorce de toi. Ça ne marche pas parce qu'il est justement sous la colère. Il n'a pas toute sa tête. D'accord? Quand vous arrêtez de vous disputer. Vous arrêtez de vous mettre en colère les uns les autres. Vous arrêtez de vous chamailler pour n'importe quoi. La vie, elle est beaucoup plus compliquée, beaucoup plus difficile. Et vous êtes mariés, vous devez vous respecter mutuellement et assumer vos devoirs.
Oui, parce qu'en fait, j'avais entendu qu'on m'a dit que... Non, c'est eux, quand on prononce le mot « t'es divorcé », enfin la phrase « t'es divorcé », ça y est...
Non. Non, vous serez divorcé le jour où vous irez au tribunal. déposer une demande de divorce. Il dépose une demande de divorce, et puis le divorce il sera prononcé officiellement et légalement. Là, vous serez divorcé. Pour l'instant, vous n'êtes que dans la galère en vous disputant tous les soirs.
D'accord.
Voilà.
D'accord,
c'est bon. Une
deuxième question,
oui.
C'est possible.
Bah oui.
En fait, l'année dernière, il n'y a pas payé la zakat. Et donc, pour savoir, en fait, est-ce qu'on peut regrouper cette année les deux?
C'est pas qu'on peut, c'est que vous devez.
Ouais, est-ce qu'on... Enfin,
vous devez, c'est une obligation. Même s'il n'a pas payé la zakat il y a 5 ans, il faut la payer aujourd'hui.
D'accord. D'accord,
bah,
je vous remercie.
Merci. Bonne
soirée, au revoir.
Merci, d'accord. Juste de, pour conclure en termes de pour la question, il y a une question qui a été posée et on fera la pause tout de suite après sur la sadaqa. Est-ce qu'on peut utiliser le zakat pour une sadaqa jalia, c'est-à-dire utiliser pour, je sais pas, moi, fabriquer un puits?
Bien sûr. Contraire.
C'est recommandé, c'est, bien entendu.
C'est une meilleure façon de la vestir, la zakat.
Et dernière question sur la sadaqa jalia. Est-ce que, donc ça n'a rien à voir avec la zakat, hein, mais est-ce qu'une sadaqa jalia peut être prononcée, si je puis dire, pour une tierce personne? C'est-à-dire, je dis, voilà, j'investis un puits pour vivante ou non?
Tout à fait. C'est une question d'intention.
Très bien. Bien sûr, ces dernières questions, on va se faire une petite pause. C'est Farid, t'as mis quoi? Allez, c'était quand même, non? Tu peux regarder ça? Donc, l'Istiqama, je fais un petit peu la promotion du groupe local. Donc, ben voilà, je peux lancer la musique. À tout à Sallallahu alayhi wa sallam. Donc, 21h32, il reste une bonne demi-heure d'émission. Un certain nombre de questions qui ont été posées pendant la pause, et notamment sur Zakat El-Mal. Donc, il semblerait que quelques auditeurs ou auditrices, ou les deux, et encore quelques difficultés à pouvoir comptabiliser et compter quel montant de zakat a payé. Donc pour se fixer les idées, si j'ai bien compris, et tu me corriges, Sarazen, il faut que la personne fixe un jour dans l'année. Alors on a parlé du Muharram, 10 du Muharram, bon, c'est traditionnellement cette date, mais par exemple on peut prendre le 1er janvier de chaque année, et voir au 1er janvier, dans tous les comptes, épargne, courant, on fait le cumul, et on regarde à cette date-là le montant total. Si le montant dépasse le montant imposable, c'est-à-dire on a fixé à peu près 1100 euros, 1200 euros, si ça dépasse, on prend 2,5% de ce montant-là. C'est comme ça. Donc si c'est en dessous, bah, faire classer, donc il n'est pas imposable. En rappelant que pour 1000 euros, ça représente 25 euros, pour 2000, 50 euros. Donc effectivement, le montant il n'est pas excessif, c'est que 2,5%. Il ne faut pas s'alarmer sur un terme de calcul. Mais
c'est pas de l'argent perdu.
Et c'est pas de l'argent perdu, c'est le droit, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est le droit du pauvre à disposer de cet argent.
Nous, on n'est pas peiné quand on voit dans les images ce qui se passe en Afrique, là. Des millions de gens qui sont en danger de mort parce qu'ils n'ont pas d'eau. Et nous, on gaspille de l'eau matin, midi et soir, et on ne va pas donner 2,5% de 1000 euros, 25 euros, qui vont sauver les familles de quoi? De la soif. C'est la pire des morts, mourir de soif.
Mm-hmm.
Non, il ne faut pas perdre son temps et sur la zakat. Allez, tout de suite, je donne ce que je dois donner, et si j'en donne plus, tant mieux.
Mm-hmm.
On n'est pas en train de... Il ne faut pas chercher à éviter la zakat. Au contraire, il faut la donner avec plaisir et avec
joie. Donc là, on fait pour ces précisions juste, toujours autour de zakat, une personne qui nous a appelé en disant que sa sœur s'est mariée à l'étranger et qu'elle voulait utiliser la zakat pour lui offrir dans le cadre de son mariage.
Si elle est dans le besoin et la nécessité, elle a le droit de donner sa zakat à sa sœur. Si sa sœur n'est pas dans le besoin, elle ne doit pas lui donner la zakat. Qu'elle se marie ou qu'elle ne se marie pas, moi ce qui m'intéresse c'est l'état, la situation financière et économique de cette personne, tout simplement.
Donc si elle est nécessitaire, ça lui adresse, indépendamment du fait qu'elle se marie.
Tout à fait.
Il y a d'autres questions mais qui ne tombent pas, qui ne touchent pas sur le thème de la zakat, je vais quand même te la poser. Une personne qui semble être exaspérée par son milieu professionnel, qui précise qu'elle a du mal à supporter maintenant le contexte dans lequel elle est quand elle travaille, puisque bon, elle précise que souvent des discussions sans intérêt, voire vulgaires ou des choses comme ça, elle n'a pas pu supporter. Donc elle se dit comment elle peut se comporter dans un tel milieu.
Il faut qu'elle soit sage, c'est-à-dire adapter ses comportements aux situations. Si sa présence est utile et nécessaire, alors qu'elle reste. Si elle peut justement imposer notre type de discussion plus haute, d'accord, dans les sphères à ce moment-là, qu'elle le fasse. Mais si elle voit qu'effectivement elle empathie plus qu'autre chose, le fait d'être présent, elle prend congé. Je veux dire, on vit tous des situations identiques, que ce soit dans nos familles ou dans notre milieu professionnel. Je pense qu'on est assez mûr et assez sage pour nous comporter de la manière la plus sage, celle qui va faire avancer les choses, qui ne va pas les faire reculer. Hein, c'est pas noir ou blanc, c'est aujourd'hui je vais me comporter comme ça parce que j'ai pensé, j'ai calculé que c'était comme ça la meilleure façon de se comporter, et le lendemain ça sera autrement. Ce qui compte, c'est que vous avanciez et que vous essayiez, vous aidiez les autres à avancer.
Une autre question qui a été posée par un couple de Français convertis à l'islam. Bon, on sait que dans la législation française, il existe, quand on se marie, la possibilité de contracter justement un contrat de mariage. Et donc ces personnes demandent à ce qu'il existe un contrat de mariage musulman.
Non, pas à ma connaissance, ça n'existe pas. On est en France, c'est qu'une loi en France, c'est la loi de la République qui nous est tous imposée. Enfin, si vous êtes de nationalité étrangère, vous êtes algérien, marocain, tunisien ou je ne sais trop quoi, vous pouvez vous marier dans vos consulats respectifs et ça dépendra du consulat. Un tel consulat va faire appliquer une partie de la loi musulmane. À ce moment-là, vous serez donc soumise à cette réglementation. Tel autre, pas du tout, au moins. Et si vous êtes français, vous n'avez pas 50 solutions. C'est la loi française. Et point final.
Donc voilà un petit peu pour l'ensemble des questions, j'ai fait le tour. Je rappelle le numéro du standard 03 20 73 59 00, 03 20 73 59 00. N'hésitez pas à nous poser un certain nombre de questions. Il semblerait que Farid, tu me confirmes, ou quelqu'un au standard, donc on va le prendre tout de suite. Hassan, vas-y, mets ton casque. Oui, hello.
Oui, salam alaikum.
Alaykoum salam.
J'aurais une question à poser concernant le don du sang.
Oui.
Donc je sais qu'à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on faisait des saignées.
Oui.
J'avais lu dans un livre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait fait une saignée derrière sa nuque et que apparemment c'était une tradition du prophète, enfin dans la sunna.
Oui, oui.
Oui. Et j'aurais voulu savoir, donc mon médecin m'a conseillé aussi de faire du don du sang, et il y a des questions qui se posent, à savoir c'est haram, c'est pas haram, je voudrais savoir en fait qu'est-ce que vous en pensez.
Oui, c'est une bonne question.
Apparemment ça peut sauver des vies et voilà quoi.
Mm-hmm. Alors en ce qui concerne les saignées, effectivement ça a existé, et ça existe encore aujourd'hui, hein. C'est un moyen qu'utilise aujourd'hui des médecins pour soigner certaines personnes, donc il faut que ça se fasse de manière très suivie, très scientifique. Le don du sang, quant à lui, bon, c'est quelque chose de totalement différent. C'est vous donnez votre sang pour venir au secours de ceux qui en ont besoin. Donc ça se discute même pas, hein. Je pense qu'on aura même ce genre de questions ne doivent même pas être posées. Parce que notre religion nous a enseigné l'altruisme, la générosité. Voire, elle nous a même enseigné le devoir de sauver des vies humaines. Vous savez, vous connaissez tous le hadith de cette femme qui a donné à boire à un chien qui s'est retrouvé au paradis, bien qu'elle était prostituée. Alors, qu'est-ce que vous pensez alors de celui qui donne son sang pour sauver quelqu'un, un être humain? C'est pas un chien, c'est pas un chat, c'est un être humain. Donc, je ne vous dis pas que c'est haram, je ne vous dis pas que c'est halal, je vous dis même que c'est une obligation que de donner son sang. D'accord? Donc, allez-y, courez, donnez votre sang, vous allez sauver des vies humaines, vous allez alléger les souffrances des créatures de Dieu.
D'accord. D'autant plus qu'il paraît que c'est recommandé pour les hommes d'évacuer un petit peu du sang, et ça permettra de le faire dans l'hygiène médicale.
Exactement.
Barakallah,
c'est
bravo pour votre émission.
Merci. Salam. Donc, merci pour cet auditeur. Donc, on va reprendre. Il y a une personne, Farid.
Allô?
Oui.
Oui, bonsoir.
Bonsoir.
Donc voilà, je voulais te poser une question par rapport à mon ami. Mon ami n'est pas arabe, n'est pas maghrébin, mais est musulman.
Oui.
Et j'aimerais en fait savoir, moi je suis algérienne, musulmane, et si ma famille pouvait m'interdire mon mariage.
Bah écoutez, c'est une question très intéressante, mais ma réponse, je pense que elle ne fera pas avancer les choses. Apparemment, vous avez un problème avec votre famille, vous voulez aller dans un sens et ils veulent sans doute aller dans le sens opposé. Et je ne sais pas si ma réponse va régler le problème, peut même peut-être rajouter de l'huile sur le feu. Car si je vous dis que vous avez le droit de vous marier avec une personne que vous aimez, que vous avez choisie, qui est musulmane, vous allez prendre ma réponse et vous allez tout de suite aller la balancer plein visage de votre famille, et puis bon, ça va peut-être aggraver la situation, il y aura plus de conflits. Donc moi, ce que je vous dis, c'est ça, c'est que islamiquement parlant, une musulmane doit épouser un musulman sans tenir compte de sa couleur, sans tenir compte de ses origines, sans tenir compte de tout autre paramètre. Il y a un paramètre qui est le suivant, c'est quelqu'un de musulman qui a un bon comportement, qui vous plaît et que vous appréciez. Maintenant, il est évident que bon, vous avez une famille, vous avez des parents, des frères, des sœurs, bref, vous avez une famille, vous faites partie de cette famille. Et vous avez besoin de votre famille a besoin de vous. Je ne pense pas que le mariage doit être source de conflits dans les familles. Au contraire, le mariage ça doit être un moment de bonheur, un moment de béatitude. Donc, moi, je vous dis, discutez avec votre famille, essayez de trouver un terrain d'entente, prenez le temps, n'allez pas au conflit, soyez sage, prenez le temps qu'il faut pour qu'il accepte votre prise de position, votre décision, et ne reniez pas, ne faites pas une croix sur vos parents. D'accord ?
D'accord.
Voilà.
Je l'aurais pas fait.
Ah, que Dieu vous guide, que Dieu vous protège. Voilà, que l'on fait comme ça.
Merci pour votre prochaine. Allez, c'est bien. Pour les 20 dernières minutes, Farid, pour les 20 dernières minutes, Hassan, on va reprendre quelques minutes.
Oui, donc on était sur...
la grandeur du prophète, on devait aller...
La grandeur du prophète, on parlait de la miséricorde chez les prophètes, et on disait qu'il était la miséricorde et qu'il ne pouvait être que la miséricorde. Les siens qui l'ont molesté, qui l'ont combattu, qui l'ont dénigré, et qui le connaissaient, qui savaient très bien que ce qu'ils disaient de lui était faux. Lorsqu'il a pris le dessus sur eux, lorsqu'il a fait la conquête de la Mecque, c'est-à-dire après 21 années de galère qu'ils lui ont fait subir, quand il est rentré à la Mecque victorieux, ils se sont rassemblés, il leur a tenu un discours qui est le suivant. Qu'est-ce que vous pensez que je vais faire de vous ? Alors, un être humain normalement constitué, comme vous et moi, se venge. Ou, minimum, s'il ne se venge pas, c'est qu'il ne leur fait pas du bien après qu'il lui ait fait du mal. Et vous savez comment répondre ces Mécois ? Ils ne sont pas musulmans, ce sont jusqu'à présent ses ennemis. Ils lui disent, on pense de toi du bien. Tu es quelqu'un de noble, fils de quelqu'un de noble. La manière de dire, on te connaît très bien, on sait que tu ne feras pas grand chose, tu ne feras rien du tout. Pourquoi ? Parce que on a grandi, hein, on a vécu ensemble. Effectivement, c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va leur dire. Il leur dira, vous êtes libres, hein, pas de vengeance. Pas de répression. Il a ordonné que 8 personnes soient arrêtées et condamnées parce qu'elles ont commis des crimes, donc jugées et condamnées pour des crimes. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas brûlé la Mecque, n'a pas érigé des bûchers, d'accord, pour s'en prendre à des gens qui l'ont combattu pendant 21 ans. Et c'est ce comportement de miséricorde qui va les pousser justement à se convertir. Ils ont vu des miracles, hein, par dizaines. Ils sont au courant de tout ce qu'il a fait. Ça ne les a pas convertis. Qu'est-ce qui les a convertis ? C'est la miséricorde. Et ça, on ne peut pas le nier. Pourquoi ? Parce que les textes sont là. Et je ne comprends pas certains orientalistes qui, lorsqu'ils traitent du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils veulent faire croire aux gens que ben voilà, le prophète, c'est un guerrier, un sanguinaire. Et il se base sur des faits. Ils ne sont pas justes. Pourquoi est-ce qu'ils ne citent pas ce côté que je viens de citer? Parce que l'objectif est de le dénigrer, donc de dénigrer sa religion, l'islam, pour éloigner les gens de l'islam. L'objectif, c'est de dire aux gens, vous ne pouvez pas être musulman, regardez ce que c'est que l'islam, regardez le fondateur de l'islam. Et ça, c'est malhonnête de leur père. Alors, ça, c'était le côté miséricordieux. On peut le développer. Hein. On peut le développer, mais alors là, si vous saviez le nombre d'anecdotes que l'on peut citer, elles sont innombrables. Mais on va aller jusqu'au bout hein, de notre objectivité. Et nous disons que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'était le prophète de la miséricorde. Et c'est aussi, en même temps, un chef d'État qui a des responsabilités vis-à-vis d'une communauté. Et le prophète n'était pas seulement aimé et adulé, mais il a été aussi détesté et combattu. Il avait des ennemis. Et je suis désolé, nous tous aujourd'hui, en tant que responsables politiques, en tant que chef d'État, responsable d'un peuple, d'une nation, d'intérêt, nous nous protégeons et nous nous défendons. Et tout ce qu'a fait le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est de se défendre et de combattre ceux qui l'ont combattu. D'ailleurs, Dieu dans le Coran, qu'est-ce qu'il dit? Il dit وَقَاتِلُوا الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا. Et combattez ceux qui vous combattent et ne transgressez pas, ne soyez pas injustes. Trouvez-moi un texte, que ce soit un verset du Coran ou une parole du prophète, où il est dit combattez ceux qui ne vous combattent pas. Et là, je me tais. Combattez ceux qui ne vous combattent pas. Trouvez-moi un texte, que ce soit dans le Coran, ou une parole du prophète qui dit combattez ceux qui ne veulent pas croire. Non. Lorsque le Coran nous dit, lorsque le Coran dit aux prophètes, lorsque le Coran dit aux musulmans, combattez, il ne leur dit pas de combattre parce que Dieu veut rayer de la carte un peuple ou des peuples. C'est Dieu qui a créé les êtres humains et qui leur a donné la liberté de croire ou de ne pas croire. Et lorsqu'ils ont choisi délibérément ces êtres humains de ne pas croire, Dieu continue à les nourrir. Dieu continue à leur donner la vie. Donc nous, on n'a pas de problème avec l'existence de l'autre qui est différent. Parce que la différence, c'est le choix, c'est la volonté de Dieu. Et l'islam, comme toute idéologie, religion, vous l'appelez comme vous voulez, comme système normalement constitué, dit que on se protège et on se défend. Et c'est ce qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il s'est protégé et il s'est défendu. Et il a combattu ceux qui le combattent. D'ailleurs, ne dit-il pas Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu, lorsqu'il l'envoie à la tête d'une armée, il lui dit à Ali, va, combat au nom de Dieu. Pas pour te faire plaisir à toi. Pas au nom du pouvoir. Au nom de Dieu. Et Dieu est juste. C'est ça? Et Dieu n'a pas dit de combattre ceux qui ne veulent pas croire. Et il a dit de combattre ceux qui sont injustes. Hein? Ceux qui transgressent. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, va et ne te retourne pas. Allez, prends le drapeau, il s'en va et le prophète l'interpelle. Et il ne se retourne pas. Hein? Il a pris la lettre que le prophète lui a dit. Il dit à Ali, si quelqu'un devient musulman grâce à toi, c'est mieux que la terre et tout ce qu'il y a dedans. D'ailleurs, de dire, allez, ta mission, ce n'est pas d'éliminer les gens, de les effacer de la carte, mais c'est de transmettre le message de l'islam, la liberté d'expression et la liberté de choix. Il faut que les gens aient
cette possibilité de choisir.
Pouvoir, la possibilité de choisir entre ce qu'ils sont, hein, quelle que soit leur religion, et l'islam. Donc, ton devoir, c'est de leur permettre d'être libres jusqu'au bout. Car on n'oublie pas qu'il y a à l'époque des gens, des chefs de tribu, des gens qui ont du pouvoir, des empereurs, qui dominent leur peuple. C'est ça? et qui les tyrannise et qui les empêche de choisir. Et tout ce que l'islam a fait, c'est quoi? C'est de dire aux gens, tenez, choisissez entre ce que vous êtes déjà et ce que l'on vous propose. Et les gens, certains ont choisi l'islam, d'autres n'ont pas choisi l'islam, ils sont restés non musulmans. Et ils ont toujours vécu avec les musulmans jusqu'au jour d'aujourd'hui encore. Donc, dire que l'islam c'est la religion de la guerre, c'est la religion de la violence, c'est un mensonge, parce que, historiquement parlant, pour dire ça, il faut des preuves. Des preuves, vous allez les prendre d'où? Des sources. Quelles sources? Des sources musulmanes. Qu'est-ce que disent les sources musulmanes? Ben, elles disent que, voilà, ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout ce qu'il a fait, c'est d'offrir aux gens la liberté de croire ou de ne pas croire en l'islam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais appelé au massacre. Ah, mais bien sûr, il va nous sortir un événement. Ils disent, oui, mais il a bien ordonné l'exécution de centaines de personnes après la bataille de Quraïda. Oui, tout à fait. Les musulmans nous relatent, les historiens musulmans nous relatent cette histoire. D'accord ? C'est ça qui est bien chez les historiens musulmans, c'est qu'ils ne taisent pas des vérités aux dépens d'autres vérités. Ils sont justes, ils transmettent tout. D'accord ? Que ça plaise ou que ça déplaise, ils ne cherchent d'ailleurs pas à plaire. Ils ont une conscience. C'est ça ? Une honnêteté intellectuelle, exactement. Voilà, c'est comme ça, prendre ou à laisser. Qu'est-ce qui s'est passé ? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam signe des traités. Avec qui ? Avec les Médinois, les tribus aux alentours de Médine. On a des musulmans, on a des polythéistes, on a des juifs. C'est quoi ce traité ? C'est chacun sa religion, chacun son mode de vie, mais comme nous habitons une cité, nous la défendons ensemble, cette cité. Si Médine est attaquée, tout le monde défend Médine. On est d'accord? Donc, qu'est-ce qui se passe? Médine est attaquée et les Banu Qurayza, une des tribus parmi les tribus juives, qu'est-ce qu'elle fait? Elle trahit. Et elle entre en collision avec qui? Avec ceux qui attaquent Médine. Donc les musulmans sont encerclés désormais par le nord. On a les tribus polythéistes arabes et le sud, on a les Banu Qurayza. Ça se termine bien avec les tribus arabes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va punir ces traîtres. C'est de la félonie, c'est de la trahison. Donc on est dans un état de guerre, on est dans une anecdote qui relate un événement qui est tout à fait logique. Et c'est ce que ferait tout chef d'État et c'est ce que font aujourd'hui tous les chefs militaires. Les traîtres sont exécutés parce qu'ils ont... Comment ça s'appelle? Comment on dit? C'est le crime de intelligence avec l'ennemi. C'est ça? C'est la collaboration, non? Mm-hmm. Hein? Les collabos, qu'est-ce qu'on leur fait, les collabos? On leur met 12 balles, ou on les emprisonne, on leur rase la tête, c'est ça? Hein? On les lapide, on les exécute. Donc, dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le prophète de la violence, c'est un mensonge historique. C'est un mensonge au niveau des textes aussi, d'accord? C'est, à mon avis, c'est de la malhonnêteté, puis c'est de la haine aveugle. La haine aveugle. Il y a des gens qui sont malhonnêtes. Il y a un étudiant qui me raconte, son prof d'histoire, lui, ils sont en train d'étudier le Moyen-Âge, donc il parle d'islam. Mm-hmm. Le prof d'histoire, au lieu de faire de l'histoire, qu'est-ce qu'il fait? Il fait de la géopolitique. Il passe son temps à commenter l'actualité. L'actualité, vous savez de quoi elle est faite en ce moment. Donc à dire aux gens, regardez ce que c'est que l'islam, regardez ce que c'est que l'islam. Mais en fait, tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est dû à quoi? C'est dû à cette religion qui est le fruit de l'hérésie d'un barbare qui s'appelle Mahomet, qui était comme ça, qui était cela. Bref, un tissu de mensonges, du vomi sur le prophète. Et après 2-3 cours, vous savez ce qu'il dit aux élèves? Non, une élève l'interpelle en disant, oui, mais monsieur, comment se fait-il alors que l'islam aujourd'hui est une religion, et sans doute la seule des religions qui fait encore beaucoup d'adeptes, hein, les gens vont vers l'islam à profusion. Si l'islam c'est si horrible que ce que vous dites, pourquoi? Comment répond cet enseignant malhonnête? Il dit, ben c'est parce que les gens ne connaissent pas l'islam. Regardez-moi tout ce que je vous ai appris sur l'islam. Après tout ce que je vous ai dit, vous avez envie de vous convertir? Et là, on a à l'unisson, non, jamais on se convertira à l'islam. Il dit, ben voilà, regardez, c'est ça le problème des gens qui se convertissent à l'islam, c'est qu'on leur a pas dit la vérité sur l'islam. Ils sont aliénés, ils rentrent dedans et ils se font avoir. Vous, je vous ai averti, jamais vous deviendrez musulman. Mais j'ai pas la possibilité de parler à tout le monde en France et dans le monde entier pour les avertir. Regardez, subhanallah. Ça veut dire que pour celui qui se convertit à l'islam, donc c'est quelqu'un qui s'est fait arnaquer. Donc après 10 ans, il se fait toujours arnaquer. Après 20 ans, il se fait toujours arnaquer. Après 30 ans, ou c'est quelqu'un qui a un quotient intellectuel tellement bas qu'il est incapable de discerner le vrai du faux, le bien des... Tout ça, c'est le fruit de quoi? C'est le fruit de l'aveuglement, c'est le fruit de la haine, c'est le fruit de la passion. Si les gens prenaient le temps de dialoguer, de discuter, croyez-moi que il y a beaucoup plus de points communs que de points de divergence. Que ce soit entre l'islam et le christianisme et le judaïsme, ou même la religion aujourd'hui, on peut l'appeler comment, l'humanisme ou la laïcité, il y a énormément de points communs. Il y a une morale commune, il y a une éthique commune, il y a des valeurs universelles, c'est ça. Et il y a les valeurs de respect, de tolérance, d'acceptation de la différence. Mais qui se déchaîne contre l'islam? Ceux qui ne supportent pas l'existence de l'autre, ceux qui ont un complexe de supériorité, qui veulent à tout prix dominer et dicter aux autres leur manière de penser, leur manière d'être, leur manière de se comporter.
Ceux qui sont à l'encontre des valeurs qu'ils prétendent défendre.
Tout à fait, tout à fait. Ceux qui les trahissent au quotidien. Non pas dans les textes, parce que les textes sont beaux, ils sont mignons, mais dans leur contexte. D'accord. Je suis tolérant, mais... Tu ne dois pas faire cela, tu ne dois pas être comme ça. Donc en fait, c'est plus de la tolérance. On recherche du conformisme. C'est ça, hein? Tout le monde doit être à l'image de quoi d'un prototype qui a été prédéfini par un groupe de personnes. Et si vous n'entrez pas dans ce moule, alors à ce moment-là, on va vous accuser de tout et de n'importe quoi. Donc il est le prophète de la miséricorde. Il n'est pas le prophète de la violence. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, lorsque Dieu veut du bien d'une famille, il les guide vers la douceur, un rifq. Lorsque Dieu veut du bien d'une maison, il met dans la maison la douceur. Pourquoi il n'a pas dit il met la violence? Ils ont dit du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il n'a jamais levé la main sur une femme. Qui a dit ça? Ce sont ses adeptes, ses élèves qui le connaissent, qui ont vécu avec lui. Mieux, ils disent qu'il n'a jamais levé la main sur un enfant. Et ils sont les mieux placés pour nous parler de lui. Alors bien sûr, on va nous dire, oui, mais attendez, ce sont ses partisans. Un air de dire, puisque ce sont ses partisans, donc...
Ils vont cacher une part de vérité.
Ils vont cacher. Et ça, c'est vrai pour d'autres personnes, mais pas pour ces gens-là. Car ces gens-là, ils étaient sincères et véridiques, et ils ont tout donné pour la vérité. Celui qui est prêt à tout sacrifier, même lui-même, sachez que il ne va pas se rabaisser à un mensonge. Parce que le mensonge ne vaut pas la peine, vous savez, de mourir pour un mensonge. Et on verra, Inch'Allah, dans une prochaine émission, la véracité, hein, le sérieux des textes en islam. Hein. Notre héritage, ce n'est pas un héritage qui est le fruit de la passion ou d'un groupe d'historiens qui étaient animés par une idéologie, donc qui ont écrit l'histoire pour qu'elle aille dans leur sens. Non. ce sont des gens qui étaient d'une honnêteté incroyable. Et c'est Aïcha radiallahu anha, l'épouse du prophète, qui dit cela dans une parole extraordinaire. Elle dit, si le prophète devait cacher des versets du Coran, il aurait caché le verset dans la sourate, l'écoalisé, dans lequel Dieu lui fait des reproches. Oui. Donc si le prophète n'était pas honnête, et si les musulmans n'étaient pas honnêtes, ils auraient amputé le Coran de certains versets qui font des reproches au prophète, qui a eu des positions qui n'ont pas été agréées par Dieu. Ils auraient tué des récits par dizaines où le prophète sallallahu alayhi wa sallam se remet en question, le prophète revient sur des décisions en disant je suis un être humain comme les autres, je me trompe. Et pour conclure, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit je suis un être humain comme les autres, je me mets en colère comme tous les êtres humains, alors ô Seigneur, si jamais j'ai insulté quelqu'un ou j'ai maudit quelqu'un par inadvertance, par erreur ou par colère, alors fasse que ma malédiction ou mon insulte soit une miséricorde pour lui. Hadith sahih rapporté par Al-Bukhari. C'est-à-dire, ya Allah, j'ai fait tout ce que je pouvais pour essayer d'être une miséricorde, mais si jamais je me suis trompé, je me suis emporté, alors fasse que mon erreur, ouais,
mon, soit perçue,
ma crise de colère, mon débordement se retourne, soit converti en positif envers la personne. Donc qu'est-ce qu'on veut de plus? C'est-à-dire, il suppose, hein, il émet une hypothèse, je me suis sans doute trompé, j'ai sans doute fait des erreurs, j'ai sans doute été emporté. Dans ce cas de figure, il ferme la porte même à une erreur éventuelle, à un oubli éventuel. Il dit, Allah, toi qui as tous les pouvoirs, transforme tout cela en amour et en miséricorde.
Voilà. On va conclure sur l'émission. Juste à rappeler si on peut donner quand même une référence, puisque dans tout mal, on peut toujours trouver un bien, comme de là.
La référence est la bien ici, librairie de Saphir,
oui.
Rue de l'Épaule. Vous y allez et vous avez la panoplie de livres sur la vie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, tous les volets de sa vie. Vous avez les DVD, les cassettes. Et vous avez un film qui est excellent, que je recommande à tout le monde de voir, et ceux qui l'ont déjà vu, de le revoir sans cesse. C'est Le Message. Ar-Risala, par Mustafa Al-Aqad. La version française avec Anthony Quinn, Irène Papas, il résume la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam de manière extraordinaire.
Bah, l'Afrique, c'est Hassan pour tout, ouais, bah, pour tout ça. Et bon, on peut que. On va apprendre des choses, Inch'Allah, par nos lectures. Quant à nous, bah, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. On va passer le relais à JMF, section Tourcoing, pour nous proposer une émission tous les vendredis après la nôtre, Safina, sur la culture du chant religieux. Sans plus tarder, d'ailleurs, je suis interpellé par Tichem Sedine qui me dit, allez, on y va. 22h passées de 3 minutes, on passe le relais à GMF. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine à partir de 21h, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh.